Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Histoire d'en savoir plus, le vaccin en question. Je reçois dans nos studios du Rocas aujourd'hui Madame Valérie Berthaud-Pileux, qui est pharmacien à Dreux et qui a accepté de répondre à quelques questions concernant cette pandémie et particulièrement évidemment le vaccin. Valérie, bonjour.
Bonjour Marie-France.
Je suis heureuse de vous recevoir parce que j'imagine que vous avez autre chose à faire en ce moment. Ça doit être extrêmement tendu. Vous devez avoir un agenda de ministre, non ?
On est très occupés. Oui. Les pharmaciens sont assez sollicités. Oui.
Vous avez beaucoup de monde dans votre pharmacie. Vous travaillez avec combien de collaborateurs ?
Nous sommes au total, c'est entre 16-17 personnes.
Et combien de pharmaciens ?
Nous sommes 5 pharmaciens.
Donc tout à fait à l'aise, particulièrement pour des patients qui n'ont pas besoin de prendre un rendez-vous pour voir un médecin. D'ailleurs, beaucoup de laboratoires précisent sur leurs petites notices, en cas de doute, parlez-en à votre pharmacien. Et les publicités aussi, d'ailleurs, à la télévision, disent la même chose. Vous êtes beaucoup sollicité pour ça, pour le conseil?
Oui, énormément. En fait, le pharmacien est l'interlocuteur privilégié auprès du grand public. C'est vrai qu'il est très facile de rentrer dans une pharmacie et de poser toutes sortes de questions, toutes sortes d'interrogations, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à ce virus. C'est vrai que l'avantage d'avoir ce maillage de pharmacie sur le territoire français permet que tout patient qui est en demande de renseignements franchissent la porte de la pharmacie et puissent avoir des réponses à ces questions.
C'est très important pour eux, ça les rassure évidemment.
Tout à fait.
Et puis ils ont confiance en vous.
Exactement.
Il y a combien de pharmaciens à peu près, combien de pharmacies sur le territoire national ?
Nous sommes 22 000 pharmacies ouvertes sur le territoire français, oui.
On reviendra évidemment sur le vaccin. Vous êtes là aussi pour ça, Valérie. Mais autant dire que si les vaccins pouvaient être administrés par les pharmaciens, ça ferait beaucoup de possibilités de piqûres.
Oui, c'est vrai que l'avantage d'être comme ça réparti sur le territoire permet au plus à toute personne de pouvoir être vaccinée dans sa pharmacie. Maintenant, aujourd'hui, la course est après le temps. Le développement des centres de vaccination aujourd'hui permet aussi d'accéder à une vaccination plus rapidement.
S'il y a des vaccins ?
S'il y a des vaccins, bien sûr.
Vous avez à peu près combien d'entrées dans votre pharmacie par jour ? En gros, tout à fait.
Près 400 personnes.
400 personnes. On peut imaginer que si seulement la moitié demandait à être vaccinée, vous pourriez y faire face.
C'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est ce qu'on a... c'est ce qui s'est passé avec la grippe. On a eu énormément de demandes. Les pharmaciens ont été énormément sollicités pour administrer les vaccins. Oui, mais il a fallu s'organiser. Je pense que ça a été le cas de toutes les pharmacies. Il a fallu s'organiser pour pouvoir vacciner le plus de personnes dans un temps assez court, puisque on a été très, très sollicités dès le démarrage de la campagne de vaccination, c'est-à-dire le 13 octobre. Pour vous donner une petite idée, on a délivré 3 fois plus de vaccins le premier jour de la vaccination.
Est-ce que vous en aviez
suffisamment à l'année dernière ?
Est-ce que vous en avez eu suffisamment de vaccins pour pouvoir répondre à la demande ? Ou bien est-ce qu'il a fallu attendre un certain délai que les laboratoires vous fournissent à nouveau ?
Alors, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les vaccins se commandent d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que là, nous sommes en cours de précommande des vaccins pour la saison prochaine.
Vous pouvez vous référer quand même à ce que vous avez administré cette année.
Bien sûr. Donc là, on va se baser sur les doses délivrées cette année, plus 10 à 20% supplémentaires que l'on va prévoir dans nos commandes.
10 à 20%, j'ai envie de dire seulement.
Oui, maintenant, en fait, l'État a aussi mis à disposition du stock État. Donc du coup, on a quasiment... Je pense répondu, alors je ne suis pas dans les petits papiers, mais je pense qu'on a quasiment répondu à tous les besoins de la population qui avait envie de se faire vacciner.
Pendant tous les confinements, le premier, le deuxième, je ne dis pas le second, parce que je pense que peut-être nous allons en avoir un troisième, auquel d'ailleurs les Français semblent se préparer. Vous sentez ça aussi dans votre clientèle ? Ils vous disent « je viens maintenant parce que peut-être ça va recommencer ?»
Oui, il y a énormément d'interrogations. Bon, c'est vrai que Le confinement a été un traitement pour éviter... On ne va pas supprimer le virus. Ce qu'il faut, c'est freiner sa circulation. Hein. C'est aussi le but du port du masque. C'est aussi le but de la vaccination. C'est de vraiment ralentir la circulation du virus afin qu'il ne se propage pas à une vitesse grand V et qui, en fait...
Y compris avec les variants.
Oui, voilà, c'est ça.
Je pensais, non pas une solution, malheureusement, je ne suis pas assez qualifiée pour ça, mais je peux parler de moi, qui ai évidemment beaucoup de difficultés à trouver, comme tout le monde, j'imagine, les plus de 75 ans, un rendez-vous pour se faire vacciner, même en dehors du département et bien au-delà. Mais je suis assez tentée de me dire, si je n'arrive pas à me faire vacciner rapidement, et même d'ailleurs dans quelques semaines, j'aurais presque envie de rester chez moi, de me auto-confiner, et puisque je suis, entre guillemets, une personne fragile, de me dire, eh bien, je cesse de sortir, voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution ? Parce que je veux bien qu'on ne confine pas d'autorité, bien entendu, le gouvernement, aucun gouvernement ne peut faire ça.
Bien sûr, c'est le principe du confinement, en fait, hein, c'est s'auto-confiner de son propre chef, en fait. Du coup, c'est sûr que si moins vous verrez de personnes, moins vous serez susceptible d'attraper ce virus, c'est sûr. Donc c'est vrai que bon, il faut pas non plus s'isoler. Le port du masque, les gestes barrières, comme on entend tellement parler, sont malgré tout efficaces.
Très efficaces.
Oui, sont efficaces. Oui. Je voulais juste vous donner une petite anecdote, c'est que il n'y a plus, ou en tout cas très peu, de virus du rhume, des angines. Des gastro, nous on le voit, il n'y a plus ces pathologies hivernales. Donc forcément, le port du masque et les gestes barrières sont aussi efficaces contre ces maladies. Donc ça veut dire qu'ils sont... c'est ces gestes qu'on peut parfois...
Ça sert à quelque chose.
Et voilà.
Et j'ai reçu un médecin, le docteur Pupil, qui me disait la même chose, que dans son cabinet, il voyait beaucoup moins de pathologies hivernales. Et en particulier, j'ai entendu que la bronchiolite avait disparu.
Oui,
or, sur les petits, c'est très symptomatique parce qu'il y en avait beaucoup.
On peut voir aussi qu'il y a des effets sur l'allergie, que ces masques aussi protègent des réactions allergiques. On voit aussi beaucoup de patients qui disent de moins souffrir de problèmes d'allergie avec le port du masque.
Absolument, je n'avais pas pensé à ça, mais on met bien des filtres dans les voitures.
Bien sûr.
Pour
bien
le pollen et d'autres choses.
Ces masques protègent aussi des agents allergènes qui provoquent donc ces fameuses réactions.
Mais c'est une très bonne chose, ça. Vous savez, on va faire comme les Asiatiques, nous allons porter des masques tout le temps. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais vu une queue extraordinaire qui attendait de rentrer au château de Versailles. Et beaucoup, beaucoup de Chinois, Japonais, enfin j'ai imaginé, qui avaient tous un masque. Mais il y a plusieurs années de ça.
Oui.
Et pour eux, c'est rentré dans leur culture. Et il va falloir sans doute que ça rentre dans la nôtre, vous ne pensez pas ?
Oui, en tout cas pour les personnes qui sont fragiles. D'autant plus pour les personnes fragiles. Mmh. Après, je ne sais pas. C'est pas forcément dans notre culture, mais... Par force, ou en tout cas par obligation, on y vient. Donc,
si après... je vous dis que quand je sors de chez moi, je monte dans ma voiture, je mets ma ceinture de sécurité, et puis quand je sors de ma voiture, je mets mon masque.
Oui. C'est des bonnes habitudes.
Ça devient un réflexe, absolument. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les masques, justement, et devant toutes les émissions que nous avons depuis quelques jours, télévisuelles et radiophoniques, qui font état depuis avant-hier de la seule protection maximale à 90% des FFP2 par rapport aux masques faits à la maison, et masques chirurgicaux, est-ce que vous pensez qu'ils vont être une grande partie de la solution contre les contaminations ?
Les FFP2 aujourd'hui ne sont pas disponibles au grand public parce qu'ils sont aujourd'hui destinés principalement aux professionnels de santé.
Oui,
ça c'est normal. Ils ont un coût exorbitant et du coup, déjà si on met un masque chirurgical, c'est très bien. Ça protège déjà ça protège son entourage. Le FFP2, c'est un plus, certes, mais déjà en portant un masque chirurgical, c'est très bien.
D'après ce que j'ai compris, quand on porte un masque chirurgical, on protège les autres.
Oui.
Et quand on porte un FFP2, on est protégé également nous-mêmes.
Oui.
Et vous pensez que ça va devenir, qu'on va avoir le droit de les acheter, ces masques, puisque c'est une recommandation des services sanitaires français?
Comme les choses changent de jour en jour, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis pas.
Est-ce que vous recevez des recommandations des services sanitaires très souvent dans votre pharmacie?
Très régulièrement. DGS, de la Direction Générale de la Santé. On a également des directives professionnelles, ordinales et syndicales. Donc non, c'est très, très réglementé.
Syndicales et pharmaciens, donc.
Tout à fait. Ouais. Donc non, on ne fait pas n'importe quoi. On en suit vraiment un protocole très strict.
Vous ne faites pas ce que vous voulez.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas ce qu'on fait, pas ce qu'on veut, c'est qu'en fait, il y a une réglementation à suivre.
Et qui l'a créé, cette réglementation?
Alors, c'est...
L'ARS, non?
Non, c'est la Direction Générale de la Santé.
Le ministère?
Donc, le ministère, oui.
Et j'imagine aussi que vous devez avoir des directives concernant les précautions à prendre dans votre officine.
Oui, bien sûr.
Comment vous faites pour limiter au maximum tout ce qui peut être...
Alors, comme toutes les pharmacies accueillent par définition des clients patients dans leur pharmacie, on est soumis aussi à la réglementation de une personne par 4 mètres carrés de surface. Donc, on a une jauge, en fait, de personnes qu'on doit limiter dans l'enceinte de la pharmacie.
Et donc, la disposition de traits sur le sol, etc.
C'est ça. Donc, ça, du gel hydroalcoolique à l'entrée. Mm-hmm. Nous avons mis des plexiglas devant les comptoirs, oui, afin de pouvoir faire une barrière physique.
Et puis le port du masque, naturellement.
Et le port du masque que l'on n'enlève jamais.
Pour ce masque, comment vos clients réagissent-ils par rapport au port du masque? Sont-ils convaincus de leur efficacité? Les portent-ils pour se protéger ou bien, pourquoi pas, pour protéger les autres?
Je pense que c'est un peu de tout.
Un peu de tout.
Voilà, en fait, je pense que les gens ont pris conscience quand même.
Donc, il n'y a plus de récalcitrance?
Beaucoup moins. Beaucoup moins. Et puis, voilà, encore une fois, s'il y avait des doutes concernant l'efficacité de ces masques, comme je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait beaucoup moins de pathologies hivernales, c'est quand même assez exceptionnel. C'est quand même grâce aux gestes barrières.
Une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, oui.
On va pouvoir continuer à aller faire ces gestes barrières.
Bien sûr.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel, Marie-France Guimard-Roche reçoit aujourd'hui dans les studios d'Eurocas Valérie Berthaud, pharmacien à Dreux, pour Histoire d'en savoir plus, la vaccination en question. Vous-même, avez-vous été vaccinée, Valérie?
Bien oui. Mm-hmm. En tant que professionnelle de santé, pour aussi pouvoir protéger ses patients, je me suis fait vacciner.
Et puis continuer aussi à exercer votre métier, parce que si les soignants sont malades, les malades vont être très ennuyés.
C'est ça. C'est ça. Il faut préserver. Voilà. Effectivement, bon, moi, je parle en tant que pharmacien, mais il y a aussi les infirmiers, il y a aussi les aides-soignants, il y a les médecins, il y a les kinés, il y a toutes ces professions dont la population a besoin.
Et toutes les aides à domicile aussi.
Exactement, oui, qui vont chez les gens, qui vont souvent aider des gens qui ont besoin. Donc, il faut aussi.
Et qui peuvent leur apporter malheureusement le virus en venant chez eux. C'est certain, bien sûr. En ce qui concerne ces vaccins, compte tenu de la difficulté quand même de l'approvisionnement des premiers vaccins Pfizer et Moderna, Moderna est encore très peu diffusé finalement. Vous avez une date éventuellement où vous savez quand vous pourrez les avoir ou pas ?
Enfin, pour l'instant, c'est pas délivré en pharmacie.
D'accord. Donc ça sera le troisième, ça sera AstraZeneca. Parce qu'il n'y aura pas besoin de ces super frigos à moins 80 ou à moins 70. Ça sera dans un réfrigérateur et ils ont dit que les pharmacies pourront en avoir éventuellement. Donc, ça sera peut-être à ce moment-là aussi que vous pourrez vacciner vous-même, quoi.
Ce sera une possibilité. Ça, ce sont les instances de professionnels avec les représentants de l'État qui décideront si les pharmaciens pourront vacciner dans leur officine.
Et ça vous étonne, c'est ce retard absolument, très très important qui a été pris par les laboratoires Pfizer. Des problèmes sur une usine en Belgique qu'on doit agrandir, enfin ce genre de choses. Ça vous étonne ou bien ça arrive aussi pour d'autres vaccins ? Est-ce qu'il y a des ruptures de stock
dans votre approvisionnement ? Il y a de plus en plus de ruptures de stock de médicaments.
Et pourquoi ?
Pour diverses raisons.
Comment on fait pour vous avertir ? On vous dit, la pharmacie bientôt, on ne peut pas vous livrer ça parce que...
Mais en fait, quand on a un logiciel informatique qui nous avertit que ce médicament est en rupture, il y a un logo, un pictogramme, en fait, sur le produit, dans la fiche du produit qui nous
indique... Et à ce moment-là, c'est trop tard, vous ne pouvez plus en avoir.
Non.
Il n'y a aucune... On vous prévient même pas avant en vous disant attention parce que ce médicament contre le diabète ou contre je ne sais quoi, faites attention.
Non, on ne peut pas le prévoir.
Donc ça fait une rupture de traitement.
Alors non, on essaie qu'il n'y ait pas de rupture de traitement parce que du coup le patient n'aurait pas sa thérapie. Donc c'est quand même... On essaie de trouver... Justement, c'est aussi notre rôle de trouver une solution à ce problème. Soit en commandant un strict équivalent à ce médicament manquant, ou en téléphonant au prescripteur pour savoir comment ne pas justement, il faut surtout pas arriver à la rupture de traitement.
Les ruptures de médicaments, on peut les appeler comme ça. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait de ces fameux génériques qui ne sont pas faits en France ?
Si, les médicaments génériques sont souvent fabriqués en France. Ce sont les principes actifs qui peuvent être fabriqués à l'étranger. Mais ils sont faits en France.
Mais ces principes actifs...
Et soumis à la même réglementation
que
tous les médicaments.
Donc, il y a la
ce
même...
Ce ne sont pas des sous-médicaments, les génériques. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Les médicaments génériques sont des vrais médicaments, si je peux me permettre.
Des vrais médicaments.
Qui sont soumis à la même réglementation que le princeps, que le médicament original. Ils sont souvent fabriqués en France, dans des laboratoires français. Mais la matière première... Et souvent achetés à l'étranger. Il y a des pays comme l'Inde qui sont des fabricants de matières premières, mais qui ne sont pas forcément, c'est pas eux qui vont fabriquer le médicament. En fait, un générique, donc c'est une molécule active, donc une molécule chimique, c'est un médicament bien souvent. Il est le même que ce soit un princeps ou un générique.
Mais il y a la même quantité de princeps.
C'est la même quantité. Ce qui va changer d'un médicament original, donc un princeps, on appelle ça un princeps, du médicament original, du générique, c'est l'enrobage. Mais sinon, la molécule active, elle est la même. C'est la même molécule au même dosage.
Alors, qu'est-ce qui peut poser problème ? Il y avait un ou deux médicaments qui pouvaient poser problème. Est-ce que c'est les additifs
C'est l'enrobage qui peut changer.
C'est
le fait que ce soit l'enrobage. Mais l'enrobage sont des excipients. Normalement, les excipients... à effet notable, comme on dit, sont moindres dans un générique que dans un médicament.
Oui, mais ça peut ne pas être le même.
Ah, c'est pas forcément effectivement le même enrobage.
Voilà, c'est de là que peut-être il y avait le problème.
C'est peut-être de là que vient effectivement les petites différences d'efficacité, pas d'efficacité, mais en tout cas de ressenti des patients. Mais par lui-même, la molécule est la même au même dosage.
Est-ce que vous êtes, j'imagine, favorable à la construction d'usines sur le sol français qui nous permettent de refaire des médicaments tels que le Doliprane, puisque tout le monde en a parlé? On ne produisait pas de Doliprane en France.
Bien sûr que oui. Bien sûr que oui.
Ça serait quand même une bonne chose.
Déjà, à tout niveau, on relance une partie de l'économie locale. Et on évite aussi le carbone.
Aussi, bien sûr. Voilà. C'est comme les ananas qui viennent du Brésil.
C'est ça.
C'est la même chose aussi pour ce qui est des vaccins. La France n'en a pas fait, enfin n'en a pas encore sorti. On se désole avec Sanofi de voir que ça traîne un peu. Est-ce que vous voyez des différences entre les vaccins déjà ARN et les vaccins classiques? Que pensez-vous de ça?
Je n'ai pas la différence. Une grande technicienne dans ce domaine-là. Simplement, en m'informant un petit peu, il s'avère que la vaccination sur l'ARN messager est quelque chose d'assez novateur.
Et apparemment très efficace.
Très efficace. En fait, le principe de l'ARN messager, c'est qu'en fait, on envoie comme une photocopie du virus à l'organisme. Donc, ce n'est pas le virus en lui-même qu'on injecte, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut supposer. Donc, en fait, le principe de la vaccination par l'ARN messager, c'est qu'on envoie une photocopie du virus, ou en tout cas une partie de la photocopie.
Et il se laisse prendre le bêta.
Et voilà, c'est ça. Et en fait, non, du coup, c'est surtout que le corps fabrique des anticorps contre la photocopie du virus, mais qui, en fait, qui pourra reconnaître le virus si jamais il est ingéré ou en tout cas inhalé par l'organisme.
C'est formidable, ça.
Ça a permis quand même de faire évoluer dans la médecine cette vaccination. Et c'est vrai que du coup, c'est une vaccination qui est moins risquée, si je puis me permettre de dire ça.
Moins risquée que par exemple le vaccin comme celui de Pasteur qui inocule le virus mort.
Oui, voilà. Donc là, il n'y a pas de risque que le virus rentre dans l'organisme puisque c'est une photocopie du virus. Donc, on ne peut pas. Enfin, voilà, c'est. Alors, le risque est moindre.
Là, nous avons Pfizer et Moderna. Mm-hmm. En l'occurrence, Moderna va commencer à arriver en grande quantité sur le sol français. Et puis ensuite, AstraZeneca va suivre, alors en version classique, mais qui d'ailleurs peut très bien contenter des gens qui sont un peu inquiets sur cette nouvelle forme de vaccination et qui peut leur poser des problèmes.
Oui, bon, après, ça peut être une solution, effectivement. Après, ça prend de toute façon plus de temps pour la validation de cette vaccination, puisque du coup, le risque théorique est plus important.
Pour ce qui est de l'ARN messager, il faut quand même de toute façon un certain laps de temps pour être complètement protégé.
Oui.
Combien de temps à peu près?
Alors, un vaccin, en fait, à partir du moment où on se vaccine, il faut compter une dizaine de jours pour que l'immunité soit mise en place dans l'organisme. Et là, en l'occurrence, contre le Covid, il faut un rappel 3 semaines après.
Et que se passe-t-il si le rappel est un petit peu plus tardif?
Bon, il ne faut pas que ce soit des semaines après.
D'une semaine, ça ne pose pas de problème.
Oui, c'est ici un petit décalage, c'est pas gênant. Ça reste un rappel, du coup.
Il y a d'ailleurs un retournement de l'opinion publique en faveur de la vaccination.
Oui.
C'est clair. Qu'est-ce qui freine la mise en place rapide des vaccinations? Est-ce que c'est le manque d'organisation, le manque de vaccins? Est-ce que vous êtes préoccupé aussi sur les dernières communications du laboratoire Pfizer pour ce retard qui va sans doute être comblé dans le courant du mois de février?
C'est vrai que le meilleur allié du Covid, c'est le temps.
Rapidité.
Oui, c'est malheureusement, plus on perd de temps, plus le virus gagne du terrain. Malheureusement, on ne peut pas non plus faire des choses qui sont compliquées à mettre en place. Malheureusement, voilà, on est un petit peu...
Il faut être patient.
Il faut être patient.
Et c'est difficile avec la situation actuelle.
Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on attend depuis très longtemps en fait, ces vaccins. Maintenant qu'ils sont sur le marché, il faut réussir à mettre en place, à organiser les vaccinations. Là, c'est ce qui est déjà mis en place, en tout cas en cours de réalisation sur Dreux et sur Chartres. Il y a 4 autres centres de vaccination qui vont être réalisés sur le département.
Mais il faut vaccins.
Voilà, il faut des vaccins. La logistique se met en place. Et, voilà, mais il faut des vaccins, effectivement, pour vacciner.
Et puis aussi pour faire face à cette nouvelle engouement
Oui, mais c'est bien. Je pense que moi, j'entends beaucoup au comptoir des personnes qui sont très interrogatives sur la vaccination, sur l'intérêt, le risque de se vacciner, de se faire vacciner. Et je pense que c'est important de le faire. Si en tout cas on ne le fait pas pour soi, il faut le faire aussi pour son entourage, pour les personnes qui sont plus proches de son entourage, sachant que le risque est quand même un peu élevé, quoi. Et c'est, je pense que comme le vaccin reste un médicament, le médicament c'est toujours un avantage bénéfice risque. Et il y a quand même plus d'avantages à se faire vacciner que d'attraper ce virus qui est malheureusement...
On a dépassé les 70 000 morts quand même.
Oui, c'est... et ça peut aller très vite. C'est vrai que dans les 15 jours, à partir du moment où on contracte ce virus, on peut aller très bien pendant 10 jours. Et le 12e jour, ça se dégrade très vite.
Une petite lueur d'espoir. Est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps, cette situation ?
Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on peut entrevoir une normalité, si je peux me permettre, en septembre, je pense.
Il y aura à ce moment-là 70% de la population qui sera vaccinée. Vous pensez qu'il y aura une immunité collective de ce fait-là ?
Ça, je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une conscience collective à se faire vacciner. Il faut que derrière, les doses puissent
la tendance
suivre. La tendance, la logistique puisse suivre. C'est vrai que c'est quand même compliqué de vacciner plusieurs millions de personnes. Et en plus, en deux fois, puisqu'il se fait en deux fois. J'espère qu'effectivement, on puisse sortir un petit peu de ce tunnel et qu'on retrouve un semblant de normalité après l'été.
Vous allez réserver des vacances cet été quand même. Vous allez partir.
Je pense que je suis comme beaucoup de personnes. On vit un peu au jour le jour. On fait face là à l'urgence.
Il faut quand même faire des projets.
Oui, il faut faire des projets. Il faut rêver un peu.
Alors rêvons. Valérie, merci beaucoup d'être venue dans nos studios.
Merci,
j'étais ravie de vous recevoir.
Et
je vous remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir pris de votre temps qui est précieux pour venir me retrouver. Je recevais donc aujourd'hui dans les studios d'Eurocast de Radio Grand Ciel, Valérie Berthaud, qui est pharmacien à Dreux. Et chers auditeurs, je vous retrouverai pour une autre émission d'Histoire en savoir plus, la vaccination en question. C'est Émilie Glory, la directrice d'antenne, qui enregistrera cette émission et la réalisera pour vous. Au revoir, chers auditeurs.
Au revoir à tous.